France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie ce soir de Philippe Rio, le maire communiste de Grigny dans l'Essonne, qui vient d'être sacré meilleur maire du monde par une fondation basée à Londres. Une distinction qui en a surpris plus d'un, car Grigny n'est pas une grande ville et en plus, elle est en tête d'un autre palmarès, si l'on peut dire, celui des villes les plus pauvres de France. Mais c'est justement pour son action à destination des plus fragiles que le maire a été distingué pour les initiatives prises pendant la crise du Covid. Il faut dire qu'au plus fort de la crise, ceux qui ne parvenaient tout juste à joindre les deux bouts ont plongé dans la misère.
On a eu plusieurs personnes qui ont fait des malaises dans les Restos du Cœur parce que ils n'avaient pas mangé. C'est la première année que je vois des étudiants ici alors qu'on n'en voyait jamais.
Demain, à l'occasion du 4e anniversaire de l'appel de Grigny, nouvelle initiative en faveur des quartiers populaires avec la première réunion du Conseil national des solutions. Une initiative transpartisane dont nous parlerons avec Claire Chaudière qui suit la politique de la ville à la rédaction de France Inter. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Juliette Gou, l'actualité de la semaine, que Philippe Rio aura tout loisir de commenter. Et puis, on parlera aussi de son histoire, de son parcours. Et vous le verrez, c'est un peu Grigny un jour, Grigny toujours. À 19h, le journal de Frédéric Barrère. À 19h20, le téléphone sonne ce soir. Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les femmes. Comment les prévenir, comment les guérir? On en parle au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes. Merci à Clémentine Ducasse ainsi qu'à ceux qui sont à la technique ce soir. Arnaud Caillé, Ludovic Asselot et Fabrice Desmaz.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Philippe Rio.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes donc le maire de Grigny dans l'Essonne. Une ville de la grande banlieue de Paris située à 25 km de la capitale. 30 000 habitants de toutes origines mais avec un point commun. La pauvreté, puisque Grigny est considérée, d'après l'Observatoire des inégalités, comme la ville la plus pauvre de France, enfin de l'Hexagone. Et voilà qu'il y a un mois, vous êtes vu décerner le titre de meilleure maire du monde par la City Mayors Foundation, basée à Londres. Et il y a de quoi être fier, non?
Après coup, oui.
Qu'est-ce qu'ils vous disent les habitants quand ils vous croisent?
En fait,
bravo, monsieur le meilleur maire du monde?
Non, ils se sont appropriés cette distinction. Là où d'habitude nous sommes pointés du doigt, parfois même de la maltraitance médiatique, systématique, d'être connus par l'étranger parce que nous nous sommes mobilisés face à cette crise sanitaire et ses conséquences sociales. Ils ont reçu comme moi des textos en leur disant « Ah, chouette, t'as vu ? Ton maire, il est champion du monde. » Et donc, ils ont ce sentiment d'être champion du monde et c'est... un beau bouquet de fleurs, une belle bouffée d'oxygène.
C'est vrai qu'il y avait quand même de sacrées villes sur la ligne de départ, hein, Mexico, Bogota, Ankara, Washington et j'en passe. Je crois que la cérémonie de remise du trophée que vous allez vous partager avec le maire de Rotterdam n'a pas encore eu lieu.
Ah, absolument, ça n'a pas encore eu lieu.
Vous irez où? C'est à Londres que ça va se passer?
À Londres ou peut-être à Rotterdam ou peut-être à Grigny.
C'est pas tout à fait prêt, c'est ça?
Pas encore, non.
Le trophée n'est pas prêt? Il y a des petits soucis
Il y a des petits soucis de fabrication.
À cause du Brexit, sans doute?
Peut-être.
Bon, on suivra ça de près, en tout cas. Philippe Rio, on le dit, vous êtes distingué pour votre action en matière de lutte contre la pauvreté, notamment au moment de la crise du Covid. Alors, on va en parler, mais on va d'abord voir un petit peu, effectivement, avec un petit retour en arrière, ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'avec cette crise, la situation s'est encore aggravée. Vous étiez dans l'urgence, c'est devenu de l'urgence dans l'urgence, l'urgence au carré, pourrait-on dire. Je vous présente pas Claire Chaudière. Vous la connaissez?
Bonsoir.
Bonsoir Claire, qui suit les questions de logement, de pauvreté, de tout ce qui concerne les quartiers populaires à la rédaction de France Inter. Claire, c'est précisément ce qui vous avait amené à vous rendre à Grigny au plus fort de la crise du Covid.
Oui, et j'ai rapidement compris qu'à Grigny, le chômage partiel, ce filet de sécurité dont ont bénéficié des millions de salariés sur des emplois stables, n'avait pas autant amorti la crise sociale qu'ailleurs. Caddie à la main, j'ai croisé à l'époque Fatia à l'entrée de l'antenne locale des Restos du Cœur. On est juste devant la cité de la Grande Borne, association qu'elle a commencé à fréquenter pendant le premier confinement. Son mari est gardien de gymnase.
Mon mari a perdu plus que la moitié du salaire, puisqu'il est vacataire, donc il a perdu des heures. Le loyer est à peu près à 500 €, et après avec les aides, donc 200 €, mais du coup, avec un salaire de 400 €, on s'en sort pas. Je connais beaucoup d'amis qui sont dans cette situation. Ils faisaient de l'intérim, donc ils ont perdu leur poste. Moi, je suis positive, mais le moral de mon mari est complètement bas. Non, il y a la déprime à la maison. Du coup, on voit plus personne. Non, c'est dur. Moi, j'ai mon petit bout, alors je tiens le coup. J'en vois pas de bout du tunnel. J'espère que ça va arriver, mais je le vois pas là.
Épuisé, stressé aussi par le manque de denrées alimentaires et l'afflux des familles, Alain Lundemann, à la tête des Restos du Cœur de Grigny, m'a assuré avoir rarement vu autant de situations critiques.
Sur des emplois déjà précaires, perdre la moitié, c'est plus avoir grand-chose. Hein. Ça se dégrade, 25-30% de familles en plus. J'ai l'impression d'avoir une petite cuillère pour sauver le Titanic. Quoi. On a eu plusieurs personnes qui ont fait des malaises dans les Restos du Cœur parce que ils n'avaient pas mangé. C'est la première année que je vois des étudiants ici alors qu'on n'en voyait jamais. On retrouve beaucoup de gens qui dorment dans les voitures parce que plus de travail, plus de logement. On vit au jour le jour aujourd'hui.
Et le jour de ma venue, bonne nouvelle malgré tout, des associations de territoires plus favorisés venaient donner des surplus de nourriture car les aides du gouvernement, même revues à la hausse, n'ont pas suffi, m'a-t-il dit, à couvrir l'ampleur des besoins selon cette figure associative de Grigny.
Philippe Rio, quand vous réentendez ce qui se passait il n'y a pas si longtemps, vous étiez dans l'urgence, je disais.
Oui, très rapidement, nous avons compris que cette crise sanitaire avait des conséquences immédiates. Et en fait, avec l'ensemble des collègues de ces territoires très fragiles de la République, nous nous sommes rendus compte qu'il allait y avoir une explosion sociale et nous avons été étonnés, notamment sur le champ alimentaire. Et en fait, c'est ce qui est dit. Nous sommes des territoires où il y a une armée de travailleurs précaires, de CDD, d'intérim, et ce sont toujours les premiers victimes de la crise. Elle a été très, 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 très forte. D'ailleurs, on se relève toujours les plus difficilement de ces sorties de crise. Premier touché, dernier sorti de la crise. Et là, avec un effet blast assez important, des associations qui ont été complètement dépassées, malgré un investissement exceptionnel. Et on a réagi, j'ai envie de dire, on a juste fait notre job.
Donc les associations ont mis la main à la pâte, évidemment, pour les distributions alimentaires. Du côté de la municipalité, qu'est-ce que vous avez fait? Il a fallu distribuer des masques, des colis alimentaires également.
Il y a eu, dans beaucoup d'endroits, le souci qu'on a rencontré, c'est que dans les associations, il y avait beaucoup de personnes fragiles, en fait, les bénévoles du Resto du Cœur, du Secours Populaire, du Secours Catholique, qui sont les acteurs principaux, qui ne pouvaient pas assurer les distributions. Et donc, très rapidement, notre petite épicerie sociale, qui vient compléter l'action associative, on l'a changé de lieu, on s'est mis dans le centre culturel et on a développé pendant plusieurs semaines jusqu'à 500 colis alimentaires livrés par jour. On allait livrer et donc on avait une organisation qui tentait de répondre à cette crise soudaine alimentaire. Les enseignants qui étaient en continuité pédagogique nous informaient et détectaient parfois lorsqu'il y avait des... Ils sentaient qu'on mangeait pas suffisamment à la maison. Et donc toute la communauté s'est mise en mouvement pour apporter les solutions, le bouche à oreille évidemment. Jusqu'au mois d'avril, on a fonctionné comme ça.
Ça, c'était pour l'urgence.
Début mai.
Ça, c'était pour l'urgence alimentaire. Il y a eu aussi la question scolaire. Mmh. Il a fallu aider les familles à trouver des ordinateurs pour ces fameux cours à distance, toutes ces choses-là.
Là aussi, première des choses sur un grand bravo aux hussards de la République, que sont les enseignants. On parlait de Samuel Paty et bien évidemment... on pense à eux, des enseignants qui se sont hyper mobilisés, des parents d'élèves, des associations, des services municipaux pour pas perdre un enfant. On a créé il y a quelques années à Grigny, on a été la ville inspiratrice des cités éducatives. Et cette communauté éducative a fait dire à l'éducation nationale, après coup, que nous avons été l'une des seules villes en Essonne où on n'a pas perdu d'enfants. Pendant...
Expliquez-nous ce que c'est qu'une cité éducative.
Cité éducative, c'est quelque chose de relativement simple. C'est qu'on est tous co-détenteurs d'éducation. Le parent dans la famille, dans le temps scolaire, l'éducation nationale. Et puis, il y a un temps périscolaire, c'est la ville. Et puis, il y a un temps extrascolaire, c'est le club de foot, c'est le conservatoire, c'est aussi la ville quelque part. Et en fait, cette communauté éducative ne se parlait jamais. Et on a décidé, dans un monde hyper interconnecté, de connecter les hommes et les femmes qui, comme le disait tout à l'heure la dame, je tiens le coup parce qu'il y a un bout de chou.
En tout cas, ce que vous avez pu faire, c'est aussi parce que vous aviez mis en place un certain nombre d'outils. Il y avait notamment cette cité éducative dont vous parlez. Vous aviez déjà mis en place des tas de choses. Les petits déjeuners servis aux enfants de maternelle, c'était déjà le cas.
Les petits déjeuners, c'est arrivé après.
C'est arrivé après, mais
selon ce besoin de se dire tout simplement, on ne travaille pas avec un ventre vide, et encore moins lorsqu'on est un enfant de maternelle.
Oui, Claire Chaudière.
Qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez perdu aucun enfant, aucun élève? Comment vous avez pu, comment vous êtes aussi certain de vous là-dessus?
Parce que c'est l'éducation nationale qui me le dit. Tout simplement. J'ai eu du mal à y croire, et j'ai fait répéter 3 fois, mais est-ce que vous en êtes sûr? Et de bouche à oreille, avec les enseignants, les directeurs d'école, tout le monde a été extrêmement satisfait lorsque nous nous sommes retrouvés de la reprise de l'activité scolaire. Les enseignants travaillaient jusqu'à 21h30, 22h, avec effectivement le smartphone et WhatsApp pour parler aux enfants, puisqu'il n'y avait pas d'outils, pas toujours, d'outils numériques. Donc on a fait des distributions pour les maternelles de livres, de matériel pédagogique, et puis est venu ensuite les ordinateurs pour diminuer cette fracture numérique.
On va en venir, si vous le voulez bien, maintenant à l'anniversaire de l'appel de Grigny. C'était le 16 octobre 2017, ça fera donc 4 ans demain. Vous aviez organisé des états généraux de la ville avec d'autres maires. Vous aviez demandé des mesures d'urgence pour les quartiers populaires. Un mois plus tard, à Tourcoing, vous m'arrêtez Claire Chaudière si je me trompe, Emmanuel Macron avait promis un grand plan de mobilisation nationale pour les quartiers. Il avait même confié une mission à Jean-Louis Borloo, mais on se souvient dans quel terme il avait enterré le plan en question. En mai 2018.
Une politique d'émancipation, c'est que chacun puisse aller vers ce à quoi il aspire et qu'il n'y ait plus cette assignation à résidence sociale ou territoriale qui fait que quand on est né à un endroit ou quand on a eu un accident de la vie à un endroit, il est plus possible de s'en sortir. Et cette philosophie d'action, elle nous conduit à changer de méthode. Puis quelque part, ça n'aurait aucun sens que deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. Les gens qui y vivent, qui font parfois depuis des décennies, ce sont des acteurs de ces sujets.
Philippe Rio, vous êtes un mâle blanc qui vit dans les quartiers.
Absolument.
Donc vous ne vous étiez pas senti directement visé, mais quand même très déçu de l'enterrement du plan.
Un énorme gâchis. C'est un énorme gâchis parce que nous avons travaillé les forces justement de ces quartiers, les élus, les associations. On a travaillé d'arrache-pied et en même temps on gérait nos villes, qui sont pas simples parce qu'en fait la crise, on l'a vécue avant Covid. Et c'est peut-être pour ça qu'on a su rebondir et être présent pendant la crise du Covid. Un énorme gâchis, du temps perdu. Et le temps perdu se rattrape très rarement. Il y a une cicatrice, elle est refermée. Mais on n'oubliera pas, mais voilà, un nouveau chapitre s'ouvre.
Ça s'est quand même un petit peu arrangé avec l'exécutif. Après, Jean Castex est même venu tenir un comité interministériel des villes dans votre ville, à Grigny.
Oui, mais c'est toujours dans l'adversité.
C'est-à-dire ?
L'appel de Grigny naît d'un coup de colère, parce que l'été 2017 est un été meurtrier de suppression des contrats aidés, qu'Éric Orsenna dit très bien, qui sont en fait des contrats aidants. 20 000 suppressions de postes dans les associations sportives, de quartier, mais partout en France, mais aussi dans les associations culturelles.
Et puis il y a la baisse des APL à ce moment-là aussi.
La baisse des APL, il y a eu la baisse des subventions de la politique de la ville. On a raboté quelques crédits aux villes. Voilà. Et tous ces gens-là, c'est des gens de peu. Et on leur a enlevé un petit truc au motif de l'orthodoxie budgétaire. Ce qui est un grand mensonge, parce que ça n'a rien changé fondamentalement. Mais ça a cassé des dynamiques. Et donc l'appel de Grigny, c'est un coup de colère pour répondre à ça. C'est la raison pour laquelle, de manière transpartisane, nous nous sommes tous réunis. Parce que nous vivions les mêmes réalités et nous avons d'ailleurs, ce tissu associatif a été détruit fondamentalement. Donc on s'est réunis, on est lanceurs d'alerte et aujourd'hui on veut être lanceurs de solutions concrètes parce qu'on se dit que dans notre pays, les gens d'en bas, ils ont de l'expertise, du savoir-faire. Et il y a certainement des solutions que l'on peut créer les uns les autres et qui peuvent être dupliquées sur l'ensemble du territoire.
D'où la première réunion du Conseil national des solutions demain, réunion transpartisane, avec notamment la maire LR de Chanteloup-les-Vignes, Catherine Arenoux, que vous avez rencontrée, Claire Chaudière.
Lorsque c'est dans le phénomène ruisselant, c'est-à-dire qui vient du haut en bas, on a une chance sur deux que ça n'arrive pas là où ça voulait arriver. Et nous, notre idée qui est depuis 4 ans la même, tout bord, on se dit, nous maires, on sait que sur nos territoires, on est témoins d'expériences et de solutions extraordinaires qu'on arrive à gérer, qu'on arrive à porter, qu'on arrive à encourager, mais qui ne dépassent pas le cadre de notre cité parce qu'elles ne sont pas accompagnées. Regardons les solutions du territoire. Accompagnons-les, évaluons-les et faisons-en des solutions nationales. Il n'y a pas cette lecture que l'avenir de notre territoire, l'avenir de la France, c'est aussi l'avenir de ces quartiers. Parce que c'est aussi ça dont nos quartiers ont besoin, d'une histoire nationale. Et elle n'est pas vraiment racontée actuellement.
Philippe Rioux, pourquoi vous remettez le couvert demain précisément? Ok, c'est l'anniversaire de l'appel de Grigny, mais on est à 6 mois de la présidentielle. Il y a peut-être ça aussi derrière, comme idée derrière la tête.
Petit mot sur le comité interministériel de la ville. Je rappelle quand même, je parlais d'adversité. Le plan de relance est en mouvement. Le train de la relance est lancé. Les territoires ruraux ont des choses. Les territoires d'outre-mer ont des choses. Et puis...
Vous vous sentez oublié.
C'est pas qu'on se sent. C'est qu'il n'y avait pas de plan pour les quartiers populaires. 6 millions d'habitants. Et donc, nous avons stoppé le train le 14 novembre. 200 maires avec des villes comme Aurillac, Cahors, Albi. C'est-à-dire ces villes moyennes qui avaient leur quartier populaire, on dit stop et on veut construire. Donc on construit effectivement des choses avec le gouvernement de Jean Castex. Et on co-suit d'ailleurs actuellement, cette semaine, il y a des réunions partout dans les départements pour voir que les mesures qui ont été prises sont bien appliquées et tombent bien dans les territoires.
En gros, vous dites, nous on a les solutions, donnez-nous les moyens. C'est un peu ça.
C'est pas donnez-nous les moyens, c'est pas une histoire de moyens, c'est une histoire aussi de méthode. On veut changer la méthode. Les choses qui arrivent en bas, d'en haut, pardon, il y a souvent un problème du dernier kilomètre. C'est une expression que tout le monde connaît et tout le monde entend. Et le dernier kilomètre, en fait, ce sont les élus locaux, ce sont les territoires. Donc on peut nous dire qu'on fait plein de choses, que tout est merveilleux, mais quand on ne voit rien venir, ça veut dire qu'il faut qu'on co-construise des politiques publiques. Et je pense que nous sommes à une étape, et c'est le sens du Conseil National des Solutions qui dit deux choses. La première, les banlieues sont maltraitées dans le début de ce débat présidentiel. Et nous, nous avons un autre récit. On veut faire gagner la France, et la France, elle gagnera si et seulement si les banlieues participent à ce récit national.
C'est ce que disait Catherine Arnaud, Claire Chaudière.
Pour vous, c'est donc uniquement un problème de co-construction, pas un problème d'incarnation. Je me souviens de vous avoir interviewé il y a peut-être deux ans après le rapport de, un an après le rapport Borloo balayé. Vous disiez, finalement, certaines choses sont reprises. Le gouvernement, s'est emparé de certains dossiers. Vous parliez des cités éducatives. Mmh. On peut parler de la rénovation urbaine. 2 milliards mis sur l'ANRU. C'était une grande demande de Borloo. Mais il le fait un peu en catimini, c'est-à-dire que comme s'il avait du mal à communiquer sur ce qu'il fait en direction des quartiers populaires. Est-ce que vous avez toujours ce sentiment-là? Est-ce que c'est ce besoin de porter cette politique, de l'incarner, vous le ressentez toujours aujourd'hui?
Problème de méthode, il y a un problème de moyens fondamentalement. Je rappelle qu'on a moins de police, moins d'écoles et moins de justice dans nos quartiers et qu'on peut pas construire la République sans ces trois piliers-là. Après, sur l'incarnation, oui, il y a un manque de confiance, pas de notre part. Nous sommes transparents, on porte des choses. Après le rapport Borloo, on continue à travailler, on continue à dire on a notre place dans le système. Et d'ailleurs, j'en veux ce manque de confiance. Cette semaine, le gouvernement a nommé notre collègue Carl Olive pour l'insertion sociale par le sport.
Maire de Poissy, si je ne m'abuse.
Maire de Poissy, effectivement. Et puis, il y a eu l'annonce sur les équipements sportifs dans les quartiers. Fondamentalement, c'était ça. Donc, si on peut être influenceur maintenant, c'est bien.
On reviendra évidemment sur tous ces points. Mais on va passer à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin à la une. Des horizons plus ou moins lointains, mais aussi des souvenirs, ceux du dernier compagnon de la Libération et ceux des collègues de Samuel Paty.
Pour aller en salle des profs, on passe devant sa salle, parce qu'il avait sa salle identifiée. Moi, je passe le cœur serré, le cœur gros.
Émotion plus que jamais au collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine. Un an après l'assassinat de Samuel Paty, ses collègues se souviennent et ils se soutiennent.
On s'est tous rapprochés et il y a un collectif très fort et très soudé actuellement.
On a une façon de résister, de rendre hommage, d'être là ensemble.
On ne peut pas ne pas en parler.
Le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'église dans toutes les têtes dimanche à la messe. Mais la théologienne Anne Soupa prévient, les prières ne suffiront pas. Avec d'autres, elle demande la démission des évêques de France.
Dans n'importe quelle association, dans n'importe quelle entreprise, pour 100 fois moins, tous les dirigeants auraient démissionné. Mais dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? 3 pater et 2 ave et on recommence? C'est pas sérieux.
Le président des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, demande pardon aux victimes et il se fait sermonner place Beauvau pour ses propos sur le secret de la confession.
Je me suis permis de lui redire, comme je le dis à chacun des cultes.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Qu'il n'y a en effet aucune loi qui est supérieure aux lois de l'Assemblée nationale et du Sénat. et qu'il n'y a aucune loi au-dessus de celle de la République.
Lundi, enfin, la fin d'un suspense insoutenable.
Je participerai à ce congrès.
À ce quoi ?
À ce congrès.
Xavier Bertrand accepte finalement le principe de la primaire, mais pas le mot.
C'est la seule façon d'avoir un seul candidat de la droite et du centre.
L'autre surprise de la semaine, c'est le nom du nouveau parti d'Édouard Philippe.
Horizon ! Pourquoi Horizon ?
C'est vrai, pourquoi Horizon ? Quel drôle de nom ! Et pourquoi pas Libellule au papillon ?
Parce que si l'on veut véritablement réfléchir à la stratégie du pays à l'horizon 2050, il faut forcément voir loin.
2050, Emmanuel Macron la jouerait presque petit bras à côté.
La stratégie pour 2030 doit nous conduire à investir 30 milliards d'euros.
Notamment pour...
des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets.
Étonnamment, il s'affranchit de la loi.
Le candidat des Verts, Yannick Jadot.
Qui est la loi de transition énergétique. On ne construit pas des réacteurs nucléaires comme ça sans demander l'avis des Français.
L'avis des Français, ce sera dans 6 mois. En attendant, le gouvernement va demander la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à l'été. Le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Ce qu'on demande au Parlement, c'est de nous laisser la possibilité jusqu'à l'été, si la situation sanitaire l'exigeait, de déclencher tout ou partie des mesures de freinage contre le Covid que nous avons été amenés à utiliser.
Il n'est pas question de donner un blanc-seing jusqu'au 31 juillet.
Le président du Sénat, Gérard Larcher.
Ça ne peut se faire que sous le contrôle du Parlement, dans une démocratie parlementaire.
La mort à 101 ans du dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, n'en avait que 20 quand il a entendu Philippe Pétain en juin 40.
Il faut cesser le combat.
C'est un moment où la France se couchait littéralement. Il n'y avait qu'un seul bonhomme, c'était le général de Gaulle.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Hubert Germain fut de toutes les batailles avant de participer au débarquement de Provence.
Quand je suis arrivé sur la plage, je suis tombé et j'ai pleuré comme un enfant.
Comme prévu, il sera inhumé au Mont-Valérien. Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin pour ce mix de l'actualité. Une semaine en France, en compagnie de Philippe Rio, le maire communiste de Grigny dans l'Essonne, désigné meilleur maire du monde. Je ne sais pas s'il y a un sujet auquel vous souhaitez réagir, Philippe Rio.
Peut-être Samuel Paty, parce que ce sont des visages dans les collèges de Grigny. Il y a 3 collèges, donc je pense bien évidemment à ces professeurs qui sont parfois les invisibles de la République. Qui font un boulot extraordinaire, parfois dans des conditions ingrates, qui tiennent debout. Je me rappelle cette lettre lue le 2 novembre dernier dans l'école de la Grande Borne, dans laquelle j'ai été, l'école de l'Autruche, avec l'inspectrice académique, avec l'enseignant et ses élèves. Et ce fossé, en même temps ce regard attentif des enfants, la lettre était un peu compliquée, la lettre de Jean Jaurès. Et puis en même temps, tout cet espoir qui existe encore pour faire République.
Vous êtes membre du Parti communiste, Philippe Rio. Vous n'allez donc pas couper une question sur la candidature de Fabien Roussel à la présidentielle. Hein. C'est dans 6 mois. Le bloc de gauche, si on s'en réfère aux enquêtes d'opinion, est à moins de 30%. La candidature de Fabien Roussel, forcément, elle participe de cette dispersion des voix. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ?
C'est une identité qui a à s'exprimer. Aujourd'hui, moi, je me tais parce que je suis dans un collectif. Et dans le collectif, on s'est dit...
Quel collectif ?
Le collectif du Conseil National des Solutions.
Oui, mais enfin, vous n'allez pas gommer votre identité.
Non, je ne la gomme pas. Je peux même vous dire, tiens, que j'ai eu, pour rire, il y a eu un article dans la Pravda.
C'est-à-dire ?
De meilleure mère du monde.
Bravo, là vous bottez bien en touche, mais enfin, non, c'est quand même une vraie question parce que.
Oui, c'est une vraie question.
Notre système... politique nationale, c'est quand même quelque chose d'essentiel.
Je pense que notre système politique est à bout de souffle, que le débat présidentiel est tout pourri.
Tout pourri parce que c'est les questions identitaires, les questions sécuritaires,
évidemment,
qui prennent le pas sur le social. Pour l'instant.
Depuis des années, on joue avec le feu dans ce pays, c'est-à-dire avec le fascisme français qui est une réalité, qui gonfle et qui gonfle. Et qui nous gonfle certains, qu'on n'apporte pas les vrais sujets, même si j'entends pouvoir d'achat. Je pense qu'on joue trop avec le feu. Et ce que nous disons, nous, enfin moi voilà, je suis élu de la République. Sur le terrain, nous on est occupés à 300% à être des digues républicaines, parce qu'on a notre rôle à jouer. Et J'ai pas trop le temps de savoir si on s'appelle effectivement Horizon comme nouveau mouvement, si on participe à des primaires. Je regarde ça de très loin. Non pas que je m'en déplaise, parce que bien évidemment qu'on vit d'un système et que si les pouvoirs locaux ont un pouvoir important d'interpellation, de construction, d'ingéniosité, de mise en place de politiques publiques, bien évidemment que nous dépendons d'un système national. Mais aujourd'hui, je suis inquiet. Voilà, je suis profondément inquiet et j'ai des échanges avec Fabien.
Roussel.
Pardon, avec Fabien Roussel, avec qui, oui, j'échange.
Voilà, on n'en saura pas plus ce soir, mais écoutez, oui, Claire, je veux dire.
Vous disiez que vous êtes très inquiet sur la question de l'image des quartiers populaires. Est-ce que vous voyez quand même la question des préjugés évoluer? Est-ce que vous parliez de maltraitance médiatique? Est-ce qu'on a quand même un petit peu bougé ces dernières années là-dessus?
Entre l'appel de Grigny et l'aventure du rapport Borloo, qui s'appelait d'ailleurs « Vivre ensemble, vivre en grand, la République pour une réconciliation nationale », nous avons eu la chance avec les collègues Catherine Arenoux et d'autres d'avoir une lucarne médiatique assez durable d'un peu plus de 6 mois. La dernière fois qu'on parlait des banlieues aussi longtemps, c'était pendant les émeutes de 2005. Et donc, pour rien vous cacher, on a fait tous les plateaux radio, beaucoup de télé, et on a permis à votre profession, en tout cas une partie de votre profession, à regarder autrement les banlieues, à se dire qu'il y avait des forces vives, ingénieuses, d'espoir, que c'était pas uniquement la misère, que on faisait pas de la misère un fonds de commerce politique, mais qu'on voulait juste vivre pleinement dans la République après le choc des attentats de 2015. Les choses ont changé. Un petit peu. Il y a d'autres regards plutôt bienveillants. D'ailleurs, je vous remercie de nous donner la parole. Je dis nous parce que, voilà, encore une fois, j'attache beaucoup d'importance au collectif. C'est comme Meilleure Mère du Monde. C'est un collectif d'associations, d'agents municipaux, de professionnels de santé, même d'entreprises. Et tout ça est extrêmement précieux et important. Il y a encore du chemin à faire.
Mais vous sentez la société qui se crispe en même temps, aujourd'hui, à quelques mois de la présidentielle? Vous le sentez?
Je l'entends, et en même temps j'entends cette soif de vivre pleinement en France. Et nous, le message que l'on veut faire passer à travers le rendez-vous de demain, à travers notre proposition qui est uniquement sur le sport avec ces cités olympiques, c'est des solutions concrètes de terrain, de proximité, de quotidienneté, en disant on veut faire gagner la France et la banlieue par le sport, par exemple, là où on a moins d'adhérents, moins de piscines, moins de gymnases, moins de pistes d'athlétisme, moins d'équipements. On représente plus de la moitié des médaillés français aux Jeux Olympiques. Et donc, avec moins de moyens, on arrive à faire des choses où la France entière nous regarde, nous applaudit et est fière d'être de cette France-là. Nous, on veut montrer toutes les facettes de manière très positive, parce qu'il y a du positif dans nos banlieues aussi.
Alors, on va parler de cette fracture territoriale au niveau des équipements, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Mais avant d'y venir, je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière. Moi, si j'ai bien compris, Philippe Rieu, à Grigny, il y a d'une part des logements sociaux, avec la Grande Borne, la cité de la Grande Borne, et d'autre part, une énorme copropriété très dégradée, Grigny 2. Pourtant, au départ, la Grande Borne, c'était un rêve architectural signé Émile Ayot. Écoutez-le parler de son projet dans Interactualité, présenté par Dominique Bromberger, le 11 novembre 1972.
Je crois que cette cité a été faite dans des conditions extrêmement coûteuses, c'est-à-dire que les bâtiments sont volontairement très bas, de façon à ce que le bruit des voix accompagne la solitude des individus. Un des défauts de l'urbanisme contemporain, c'est de faire ces grandes loggias au 10e étage et de faire des solitudes juxtaposées au lieu de faire des collectivités. Chez moi, au contraire, je me suis ingénié à ce que les replis des rues, des maisons soient assez étroits pour que sans cesse le bruit des voix vous accompagne, vous réveille et empêche cette sorte d'angoisse de solitude que le matin apporte chez les gens peu munis.
Voilà, c'est beau, c'est poétique, Philippe Rieu. Hein, ça fait presque 50 ans, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va très bien vieillir, c'est ça?
Bah écoutez, il y a 50 ans, il y avait 5% de chômage. Aujourd'hui, il y en a 50. Donc l'habitat n'a pas changé et ça reste un lieu formidable. Et c'est pas parce que je suis... Si, quand même un peu. Je suis un enfant de la Grande Borne.
Vous n'êtes pas très objectif, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, mais tout le monde est étonné. Ce n'est pas des barres et des tours, la Grande Borne. Ce n'est pas ça.
4 étages maximum.
4 étages maximum, des formes, 13 sous-quartiers avec leur propre identité. C'est d'une conception. Mais encore une fois, voilà, 5% de chômage quand j'étais petit et aujourd'hui 50. Ce n'est pas de la faute d'Émile Ayot, ça.
Sur le manque d'équipement, un petit mot quand même. Plus qu'une seule poste maintenant à Grigny 2, donc pas de poste pour la Grande Borne. Plus de commissariat. Il a fermé sous Nicolas Sarkozy, vous en demandez un. Les médecins, par exemple, quand on parle de fractures territoriales, vous avez réussi à en faire venir certains, en garder certains?
Oui, comme beaucoup de territoires, les services publics partent. Les services publics essentiels, la police dans une ville où il y a deux quartiers de reconquête républicaine, un quartier de 17 000 habitants, Grigny 2, l'autre de la Grande Borne, 11 000 habitants. Et effectivement, la difficulté, la réalité de déserts médicaux. Et donc, comme toutes les villes, dans un système qui est pas très bien en fait, parce qu'en fait, on est tous en concurrence les uns des autres pour savoir qui va faire la meilleure offre aux médecins. Donc c'est un peu malsain. Mais on y arrive quand même, et à la Grande Borne, il y a des médecins qui sont arrivés, mais je ne perds pas de vue que j'ai trois médecins sur la ville qui vont partir à la retraite. Donc s'il y a des médecins qui nous écoutent et que vous voulez...
Ça c'est un vrai sujet, et je vous assure qu'ils nous écoutent, les médecins, c'est pas toujours simple. Juste un mot, et après on parlera dans votre histoire, Philippe Rio, un mot du supermarché que vous attendez depuis quoi? Depuis 2016? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de supermarché?
Départ du groupe Casino qui ferme plusieurs endroits parce que fragilité économique. On construit un projet, on trouve une enseigne neuve qui est prêt à investir sans aide publique, et le supermarché d'à côté qui s'appelle Leclerc fait des recours sur recours et pour 7% pour une baisse de 7% du chiffre d'affaires et d'une perte de 20 emplois dans le Leclerc de la ville d'à côté, et donc on va perdre 2 ans de procédure juridique, mais on va gagner. Mais pendant ce temps-là, on va à pied parce qu'on est sous-motorisé, parce que le bus, c'est pas super. Donc voilà, ça fait partie de ces inégalités territoriales où les forces économiques nous empêchent un développement, tout simplement.
On va parler de vous dans un instant, Philippe Rio. Liberté, c'est signé Yeli et c'est le choix de Djoubaka.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie de Philippe Riault, maire de Grigny dans l'Essonne. Philippe Riault, vous avez, on peut le dire, 47 ans. Vous avez grandi à Grigny. Vous êtes un enfant de la ville, un enfant de la ville d'origine bretonne. Vous avez vécu d'abord à la Grande Borne et puis à Grigny 2. Et vous êtes toujours un habitant de la ville. Vous venez, on peut le dire, d'un milieu populaire. Papa cuisinier, maman ouvrière. À 12 ans, vous faisiez les marchés avec vos parents. Vous dites de vos parents que c'était des déclassés de la classe ouvrière. Pourquoi des déclassés de la classe ouvrière ?
Parce que, comme beaucoup d'ouvriers qui étaient montés à Paris ou qui venaient d'ailleurs, dans les années 90, voilà, le chômage de masse a été inventé dans ce pays. Et ceux qui étaient les plus fragiles, eh ben, ont été pris dans cette vague de déclassement, de déconsidération, de déclassement économique et de déconsidération politique. Et ont constitué ce qui est aujourd'hui le creuset de la pauvreté en France et des inégalités.
L'école, c'était pas votre truc à l'époque?
Si, moyennement.
Bon, d'accord, j'aime bien cette réponse aussi. Toujours est-il qu'à 16, dès 16 ans, vous avez travaillé en intérim dans l'industrie agroalimentaire pour Cerver. Faut dire que Grigny, c'est pas très loin d'Orly. Et puis, à 17 ans, il y a eu un premier engagement associatif. En fait, c'est la question du logement qui vous a amené à la vie associative d'abord, et puis plus tard à la vie politique. C'est, vous avez milité avec la CNL, c'est ça ?
Oui, en fait...
Confédération Nationale du Logement, si je ne m'abuse.
Effectivement, j'ai rencontré des militants associatifs et politiques. C'est aussi ces invisibles de proximité qui refusent les injustices. Et ma famille, dans ce courant de déclassement, nous avons été confrontés, comme beaucoup de familles, à la question de l'expulsion locative. Et donc la mobilisation de la CNL et des militants du Parti communiste notamment a été de s'opposer à cela pour trouver des solutions, parce que fondamentalement il y en a des solutions. Là où nous étions extrêmement isolés, moi j'ai découvert des gens qui se mobilisaient pour les autres. Et de cette force collective là, voilà, ça a dessiné un engagement d'abord associatif et ensuite politique de manière naturelle. Mais c'est cette rencontre dans des moments douloureux de la vie.
Voilà, engagement politique qui fera que vous allez être élu conseiller municipal en 2001. Ça fait donc 20 ans que vous êtes élu. Vous êtes maire depuis 2014, élu au premier tour, réélu au premier tour en 2020. Mais quand même un petit mot des études, parce que vous les avez reprises finalement, ces études. Vous avez fait des études, un DEUG d'AES, puis vous avez bifurqué vers l'urbanisme à la fac de Nanterre. Vous êtes même allé à Sciences Po. Et là-bas, c'était quoi, le choc des cultures ?
Oui, évidemment, le choc des cultures, mais j'en garde encore des amis, des bonnes connaissances. Voilà, l'école, c'est ce parcours. Je suis pas un génie, beaucoup de travail, beaucoup de travail. C'est ce que voilà, j'ai appris et à l'école de l'Autruche, des enseignants qui resteront des repères.
Et aujourd'hui, donc, vous êtes meilleur maire du monde. Pour votre action, évidemment, en faveur des plus pauvres au moment de la crise, on l'a dit, mais aussi parce qu'il y a quelque chose, une chose à laquelle la Meyer City Foundation tient beaucoup, c'est le développement durable. Alors expliquez-nous, c'est le système de géothermie que vous avez mis en place qui vous a valu aussi ce prix ?
Certainement, parce que à un moment, la copropriété de Grigny 2, 17 000 habitants, 5 000 logements, la deuxième plus grosse propriété d'Europe. Je venais d'être maire et on a l'information selon laquelle le chauffage va être coupé parce qu'il y a des impayés.
Énorme impayé de charges.
On découvre la situation et pour sortir de ce système, bah, il y a de l'eau chaude sous nos pieds en région Île-de-France. Il y a 40 de forages de géothermie. Et on se dit, bah, on va sous maîtrise publique sortir des marchés mondiaux du gaz. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est la catastrophe.
Hein.
Et donc aujourd'hui, nous avons ratifié la COP 21 de Paris. Nous faisons économiser 15 000 tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère par an. Et nous avons fait baisser la facture de 25%. Ce réseau de géothermie va s'étendre chez nos amis de Fleury-Mérogis et de Sainte-Geneviève-des-Bois. Au 1er janvier, nous allons connecter la plus grande prison d'Europe, Fleury-Mérogis. Ça va nous faire économiser 10 000 tonnes de CO2 en moins. Mais nous avons un combat, parce qu'aujourd'hui, c'est l'écologie ou le business, et la Grande Borne, par exemple. Nous n'avons pas encore développé toutes les capacités géothermales, parce qu'il y a un contrat commercial qui nous empêche de brancher la géothermie.
Alors, on pourrait encore développer cette question de la géothermie et puis parler du problème de Grigny 2 et des charges, mais on ne va pas avoir le temps, malheureusement, parce que cette émission va se terminer. Juste un mot des autres projets, parce que vous en avez plein, notamment un conservatoire qui permettrait de relier les deux parties de la ville.
Grigny subit l'urbanisme autoritaire de l'État qui dit classe moyenne à Grigny 2, 5000 logements, classe populaire à la Grande Borne, 3500. Au milieu, le vide. Au milieu physique, le vide. Depuis 20 ans, cette municipalité, 30 ans, tente de créer un cœur de ville, ce qui paraît normal. Et dans ce cœur de ville, les services publics, il y aura du commerce, on va réussir avec le supermarché, des logements, et le service public, ça va être la culture. Donc, un équipement multiculturel, conservatoire, salle de spectacle, et puis même un cinéma.
Voilà, il y a un projet de cinéma. Vous allez bientôt inaugurer une piste d'athlétisme, l'Adji de Couré, qui sera baptisé comme ça. Il y a plein de projets.
Centre de formation de Thierry Marx, cuisine mode d'emploi.
Des tas de choses dans votre ville. Vous habitez toujours sur place, on l'a dit, Philippe Rio.
Je vous confirme.
Ça veut dire que vous êtes maire 24 heures sur 24, c'est pas un peu compliqué par moment quand même?
Évidemment.
Parce que les administrés sont un peu exigeants aussi.
Dans la cage d'escalier, mes voisins, que j'adore. Voilà, me rappelle, même quand je rentre tard le soir, qu'il y a un petit truc qui va pas ou qu'il faudrait penser à ça. Mais ce qui peut être très charmant et parfois pas facile.
Ça veut dire quoi? C'est parfois un peu compliqué. Et sinon, c'est quand même le plus beau mandat de tous?
Tout le monde dit ça. En tout cas, oui, c'est le plus beau, je crois. Mais j'en ai pas fait d'autres. Donc je ne sais pas les autres.
En tout cas, on nous dit que c'est l'élu préféré des Français, le maire. Alors il n'y a pas de raison. Merci Philippe Rio d'être venu ce soir. Un grand merci à Claire Chaudière aussi. Et puis bon Conseil National des Solutions demain.
Merci.
On suivra ça, Claire.
À Bercy, avec la Fédération Française de Judo.
Voilà, c'est noté. Merci mille fois. Surtout qu'il y aura tout un aspect sportif dans cette histoire. Merci à vous.